énervé. La radio qui pète une case!
Bonjour à toi, chère auditrice, bonjour à toi, cher auditeur, et bienvenue sur Énervé, la radio du CO. Je suis super contente de t'accueillir pour la première émission de la saison. C'est moi, la bientôt parfaite animatrice radio, Eva, qui ai le bonheur de vous faire entrer dans le monde merveilleux de notre radio, de votre radio, de ta radio, la seule, l'unique, la véritable radio veuvezane, la radio énervée. Mais ne t'inquiète pas, cher auditeur, je ne suis pas égoïste, je ne serai pas la seule qui porte l'habit d'animatrice. Aujourd'hui, d'autres guides vont te faire découvrir notre pays imaginaire. Laurent te présentera son amour immodéré des porte-clés. Julien t'apprendra à parler à des êtres particuliers, mais bien de chez nous, les Suisses-Allemands. Odile t'emmènera vers l'amour passionnel du fromage. Et cerise sur le gâteau, tu auras aussi le bonheur de plonger dans l'univers puissant et expressif de l'artiste peintre Jacques César. Mais chut, je ne t'en dis pas plus. Je te laisse avec Stole Dance de Milky Chance.
So kind, but now they've brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us.
Chers amis, c'est Laurent, et je vais vous présenter mon dada. Mon passe-temps, quoi. Moi, mon dada, c'est de collectionner les porte-clés. Allez, à bientôt.
Eh mais, qu'est-ce que tu fais, Laurent?
Bien, je range mes affaires, la chronique est finie.
Mais comment ça, fini? Tu oses dire que c'est fini? Il conviendrait plutôt de dire que c'est un effroyable manque de travail. Mais ça se comprend, monsieur devait être trop occupé à bichonner sa collection de porte-clés.
Eh, hey, c'est bon, pas besoin de t'exciter comme ça. On va la refaire. Bonjour les amis, c'est Laurent. Mon dada, c'est de collectionner les porte-clés. J'en ai même en forme de cochon. Et quand on appuie sur son ventre, il fait un peu le même bruit que mon papa quand on le réveille en lui mettant de la crème chantilly dans la bouche le jour de Noël. Je me rappelle qu'une fois, on a même mis du dentifrice dans sa mousse au chocolat. Et une autre fois, on a...
Mais tu le fais exprès ou quoi? On s'en fiche de savoir que tu as essayé de mettre de la crème chantilly dans le dentifrice au chocolat de ton papa.
T'as quelque chose contre le dentifrice au chocolat?
Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir l'excuser, il ne le fait pas exprès, enfin, je crois.
Mais c'est ma chronique, je fais ce que je veux d'abord. Bon, je crois qu'on va se calmer et écouter un peu de musique.
T'as sans doute raison.
Et en plus, on n'a pas mis de la crème chantilly dans son dentifrice au chocolat. On a mis du dentifrice dans sa mousse au chocolat.
Oh, mais tu as pas recommencé.
Non, non, mais ce n'est pas de ma faute si tu as des problèmes d'audition.
Envoyez la musique. Quality gold, don't get hurt, get the kind of thing. And when I die, I push it down, push it down. I'm the one, good time call, full of blue and talk. Bring up my doorbell, feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Turn back, the light goes down.
Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. On for tonight. Sun is up, I'm a mess, gotta get out now. Gotta run from this, here comes the shade. Here comes the shade. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Turn back, the light goes down.
Énervé.
La voix de la veuvesse.
T'es qui, toi?
Portrait d'un animateur.
De nouveau, bien le bonjour. Encore une fois, c'est Eva. Je dois me présenter, mais que dire? C'est assez simple, en fait, au final. Au CE, je fais un petit peu tout, le théâtre, la radio, le chœur. Et j'ai même postulé pour le poste de directrice de l'école, mais bon, M. Nanzer n'était pas d'accord. Donc je me suis raisonnée en me disant que faire des fiches de maths ou des rédactions, c'était plus passionnant. Et si jamais on s'ennuie en classe, on peut toujours se laisser entraîner par la poésie, devant la fenêtre, accablé par la lassitude, en se disant ces quelques mots. Le temps imprévu de demain laisse à nos pauvres âmes une subtile minute de réflexion qui nous plonge dans les abîmes déroutants de notre passé, tout en nous propulsant dans l'éternité de notre futur. Alléluia.
Alléluia.
Bon, pardon, désolé. Bien, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur moi, ou pas, hein, c'est à choix, je vais vous laisser sagement écouter Cosmos de Soprano.
Où sont les filles, les femmes au tempérament de guerre? Qui savent comment faire la fête, qu'elle soit mère ou célibataire. Où sont les hommes, les gangsters, les pauvres ou les millionnaires, les bobos, les mecs en survêt, les intellos, les mecs en fumette. Où sont les quartiers, les blocs, les HLM mis de côté, les résidents.
énerve.
Je suis colère.
La voix de la veuvesse.
Tu sais, les mecs comme moi, très souvent ça déçoit, très souvent ça disparaît, ça fait de sales histoires. Je te mentirais des fois pour entrer tard le soir. Faut que tu saches, ma grande, je ne suis pas un mec pour toi. Je vais finir par me sauver, sauver, sauver. Je ne suis pas un lover, lover, lover. Je me comporte comme un loser, loser, loser. Donc je vais finir par me sauver. Sauver, sauver, yeah.
Tu sais, les filles comme moi font pleurer les gars comme toi. Au début, tu penses me tenir, c'est parfait. Je te laisse croire que je suis naïf, t'as l'espoir que je t'obéisse. Tu finiras par attendre et ça appelle. Tu crois qu'une fille comme moi en est à son coude et c'est moi, j'infiltrerai ton sol.
J'enfile mes meilleurs habits, j'ai un problème comme Nicky. J't'ai changé, c'est bien plus qu'un petit coup de pouce. Cendrillon, bibidi, bobidi, bou. T'es foutu si j'te laisse dans cette situation. Ah, un, plus de cadeaux. T'es l'ombre de mon ombre, error, pussy cadeaux. Cindy, sois pas fâché pour t'oublier. J'ai dû t'imaginer en train de chier. Regarde-toi dans la glace, j'étais peut-être le seul type qui n'avait jamais vu le Pink Paradise. Oh shit, bye, t'es plus de la mif. On va te négliger comme l'ami d'un ami. J'devais te présenter à Karl Lagerfeld. Oh. Vas-y, file.
Tu penses à qui quand je rentre sur le beat? À toi qui disais vite à Kim sur un feat, mais c'est quel titre? Maintenant dis-moi qui te met la pression sur le beat? Et si tu danses, c'est que vite à Kim sans crède, on fait un hit.
Énervé, la radio qui me tape sur le système.
La minute ch'tofifre.
Salut, c'est Mavigots. Bienvenue dans la minute ch'tofifre. Apprenez des expressions suisse-allemandes, cette belle langue avec laquelle vous pourrez vous les péter sur les pistes de luge ou de curling de Tankling. Soit une expression que vous devez absolument maîtriser en suisse-allemande.
Hestini ovo hütrokra.
Bon, je vais tenter de le dire, mais je suis pas sûr de la prononciation. Hestini ovo hütrokra.
Ouais, pas mal, pas mal.
Also, avant de déclarer votre amour avec cette belle phrase ou de composer le nouvel hymne suisse, il faut d'abord savoir ce que ça veut dire. Vu que je suis gentil, je vais vous la Google traductionner. Alors, Eshtini Ovo Ut Shoka. L'hippopotame mange du beurre en dansant comme une fleur. Bon, c'est Google Traduction, je suis pas sûr de la fiabilité. Tu peux me dire ce que ça veut dire là, parce que je suis un peu largué.
C'est pourtant pas compliqué. Eshtini Ovo Hüt Schokra, hast du dein Ovo heute schon gehabt?
Ouais, ça fait pas vraiment avancer le public. Hein.
Bon, je t'explique. Est-ce que tu dis Ovo Hüt Schokra, as-tu déjà eu ton Ovo ce matin?
Ah ben ouais, c'est exactement ce que j'allais dire.
I couldn't lie,
could lie. Everything that kills me makes me feel alive.
Extraordinaire des gens comme les autres.
Bonjour Monsieur César, c'est un honneur pour nous de vous accueillir dans notre tout nouveau studio de la radio énervée. Comment allez-vous ?
Ça va pas trop mal.
Quel temps fait-il à Crézu ?
À Crézu, les brouillards traînent, il y a la première neige, mais l'automne est encore très présent.
Et qu'avez-vous admiré aujourd'hui dans votre gruyère bien-aimée ?
Eh bien, par exemple, ce matin, le long d'un arbre, d'un mélèze, un grimpereau qui grimpait du bas du tronc jusque tout en haut.
Ah, c'est mignon. Quand je dis retable, cela me fait penser à l'actualité et sa cruauté au travers de scènes en grisaille. Un tourbillon où tout est lié, où se mélangent messages bibliques, immense débâcle du monde et morceaux d'espoir. La nature, les arbres, le temps qu'il fait, une source de vie. Votre amante, la verte gruyère. Comme décor, la femme avec un grand F. Et comme porte-drapeau, omniprésente, obligatoire, vitale, l'apocalypse, illustrée par une bête à sept têtes qui s'apprête à dévorer un enfant. Voici quelques images fortes qui illustrent ce magnifique retable qui va siéger sur la scène de l'Universal du 24 novembre jusqu'au 19 décembre. Que pensez-vous de cette petite description ?
J'ai beaucoup aimé votre mot dans ce poème. La débâcle du monde. Et il est vrai que je suis partagé entre un esprit de contemplation sur la nature, et à chaque fois qu'on ouvre la radio ou la télévision, on assiste aujourd'hui en direct à la débâcle du monde, où j'ai l'impression que les hommes ont abandonné les hommes, qu'il n'y a plus de Dieu et qu'on vit en direct de véritables massacres comme on assiste à un match de football.
Très philosophique tout ça. Un nombre 700 comme les 700 élèves de notre école qui vont aller voir votre œuvre et qui vont essayer de lire votre peinture. Et vous, ambassadeur émérite de la peinture fribourgeoise, là en face de nous, aujourd'hui pour essayer de nous expliquer, de nous diriger un tout petit peu dans le labyrinthe d'images qui habite ce retable. Merci d'être là.
Mais avant de revenir sur le retable, deux petites questions sur vos origines. Vous êtes originaire d'Italie, c'est bien ça ?
Alors, de père italien et de mère suisse, mais mon père était de la deuxième génération de cette célèbre migration qui s'est faite au début du siècle dernier, avec beaucoup de maçons, de gypseurs, de peintres en bâtiment, qui sont venus du Piémont travailler en Suisse, en Gruyère, et principalement autour de la Veveyse et de la Gruyère. Beaucoup d'entreprises, en fait, se sont installées avec à leur tête des Italiens qui pratiquaient de manière remarquable les différents métiers de maçon, de gypsier, de peintre. Donc je suis un peu issu de cette filiation.
Mais vous ressemblez plus à un gruyérien. En vous voyant avec votre longue barbe blanche, on pourrait presque vous confondre avec un armaï. Alors, êtes-vous plus italien ou plutôt gruyérien ?
J'ai pas voulu tellement ressembler à un armaï en me laissant pousser une barbe blanche. C'était peut-être par un accès timide qui faisait que souvent, les barbus, ils se cachent derrière leur barbe un tout petit peu. Mais par là, j'aime énormément la gruyère. C'est mon pays, c'est ma terre. Et c'est pour cela qu'une grande partie de ma réflexion passe par ces territoires de la gruyère qui sont contenus dans mon enfance et dans ma vie. Donc, la gruyère, pour moi, est extrêmement importante.
Selon nos sources, il semble que votre père était peintre en lettres. En quoi consistait son métier ?
Alors, c'était un métier à l'époque extraordinaire, vu que toutes les publicités pour les commerçants, cafés, restaurants, boucheries, charcuteries, se faisaient entièrement à la main, où mon père avait appris à Lausanne le métier de peintre en lettres, où, à main levée, avec un pinceau à poil de martre, il traçait ses écritures dans la ville pour satisfaire à la demande des commerçants qui lui commandaient des enseignes. Et mon père, en fait, a été victime un peu du développement parce qu'il n'a pas très compris l'évolution du monde avec les ordinateurs, vu qu'aujourd'hui, toutes les inscriptions se font par ordinateur. Et lui nous montrait sa main en disant « Eh bien, voilà, mon métier, il est par terre, j'ai perdu mon métier ».
Votre peinture, pensez-vous qu'elle est un peu habitée par votre père, du sens, je veux dire, que votre père vous a influencé dans la peinture comme il était peintre en lettres ?
Sûrement, c'est un peu comme en Veuvez ou en Gruyère, quand on est fils de paysan, il y a toujours un enfant qui va plus souvent à l'écurie qu'un autre. J'avais 3 frères et 1 sœur, donc moi j'étais tout le temps fourré à l'atelier pour boutiquer, nettoyer les pinceaux, peindre. C'était un peu ma passion et ma manie, c'était mon jeu préféré aussi. Donc de manière assez naturelle, l'atelier et les pinceaux étaient déjà presque un outil où j'ai passé en fait d'un jeu d'enfant à un outil professionnel.
Je vous propose de nous diriger définitivement vers votre métier, votre vocation peut-être, pour que nos auditeurs puissent un peu plus vous cerner. On pourrait évidemment se centrer essentiellement sur votre métier de peintre, mais comme le sujet principal est le retable, des questions courtes nous donneront plus de temps pour la question du retable. Donc, vous nous disiez avant que vous étiez proche de l'atelier de votre père, donc quand vous étiez gamin, vous faisiez déjà un peu de peinture.
Alors, pour devenir peintre dans la vie, effectivement, il y a un fait reconnaissable à l'école, c'est que vous dessinez un tout petit peu mieux que les autres enfants. Hein, c'est ce qui s'appelle un don naturel, comme quelqu'un est plus fort en sport, il court plus vite que moi sur 100 mètres, eh bien, moi, j'arrivais plus vite à dessiner un lièvre que mon copain Brutin à côté de moi à l'école qui est devenu un grand footballeur. Alors les choses se font comme ça de manière assez naturelle et c'était ma chance, je crois. Et ensuite, j'ai pu suivre un peu cette trajectoire par l'école secondaire, l'école primaire. Et puis très très vite, quand j'ai commencé un apprentissage de peintre en lettres chez mon père, un professeur à Lausanne des cours professionnels, Jean-Pierre Kayser, qui était un immense graveur, eh bien, c'est grâce à lui que j'ai été aiguillé sur l'École des Beaux-Arts, où là, l'École des Beaux-Arts était faite à cette époque-là pour apprendre un métier.
Avez-vous toujours de quoi peindre sur vous ?
Pas toujours. Par exemple, oui, aujourd'hui, si je fais l'inventeur de ma sacoche, j'ai un bloc, un crayon et une gomme. Enfin, ça, je l'ai plus ou moins toujours avec moi.
Je sais que vous avez fait de nombreuses œuvres durant votre vie, mais en une année, vous en faites environ combien ?
On ne peut pas évaluer cela en nombre. C'est des situations qui font que pendant une période, vous allez graver, pendant une autre période, vous allez dessiner. Alors, si au stade des esquisses et des dessins préparatoires, on va faire beaucoup, beaucoup d'esquisses et de dessins préparatoires. Si on élabore une série de dessins qu'on va travailler longtemps, eh bien, effectivement, il faut pour un dessin à 3, un minimum d'une semaine de travail. Et pour les peintures, c'est encore beaucoup plus long. Donc, moi, je n'évalue pas au nombre d'œuvres ou de dessins que je fournis, mais c'est une disponibilité que je donne sur des périodes de ma vie à telle technique ou à telle autre technique.
Donc vous êtes plutôt axé sur un travail de qualité.
Alors est-ce que mon travail est de qualité ? En tous les cas, j'essaye d'aller le plus loin possible dans ce possible de la main et de la technique pour rendre l'état d'une pente de montagne, du corps nu d'une femme ou l'émotion d'un visage d'enfant. J'essaye vraiment d'aller le plus loin possible.
Et comment choisissez-vous ce que vous allez peindre ?
C'est un peu la vie et l'existence qui vous entourent. Les humeurs du temps, comme l'humeur des gens, comme on en parlait tout à l'heure, les événements politiques qui vont exciter vos matins à faire ceci ou cela. Donc, par là, de temps en temps, je me donne de grands projets, comme le retable du Père Joseph, c'en était un, c'était le dernier. Mais autrement, je suis quelqu'un de relativement disponible et ouvert. Je vous parlais tout à l'heure du petit grimpeau qui grimpait le Mélèze. Eh bien, ça peut être une attrape un matin pour faire un premier dessin, parce que j'ai vu le grimpeau.
On dit que vous êtes plutôt de gauche. Est-ce vrai ?
Alors, je pense que oui, avec tous les emmerdements que j'ai pu avoir depuis mon école de recrue, en gros. Donc, par là, j'ai l'impression même d'être de gauche, je ne l'ai pas choisi. C'est une nature. D'être de gauche, c'est être disponible aux gens, c'est être un résistant. Et par là, je crois que naturellement, je suis un homme de gauche.
Est-ce que l'on peut voir cette façon de penser d'une manière ou d'une autre dans vos œuvres, vos peintures ou même vos dessins ?
Alors, j'ai eu des séries très, très, très engagées dans mon travail sur les événements du monde. Mais pour revenir au retable, par exemple, il y a une série de près d'elle en grisaille qui raconte les états du monde qu'on vit aujourd'hui avec des visions sombres de massacres, d'enfants massacrés, des visions de viol, de faim et de soif. Et par là, j'essaye en fait de faire respirer le message du Père Joseph, le retable, avec comme témoignage autour la vie du monde qui passe.
Vous avez parlé de massacre, ça me fait penser à la Deuxième Guerre mondiale. Je sais que vous êtes né en 1945. Est-ce que cela vous a-t-il marqué d'une manière ou d'une autre, cette guerre ?
Alors, vous savez, en 1945, quand j'étais né, je ne me rappelle de rien. Le premier souvenir que j'ai, enfant, c'est à 3 ans, quand mon frère Marco est né, et ils l'ont baigné dans une bassine, et il avait reçu une goutte d'eau chaude sur la main, et il a crié. Voilà, ça, c'est le souvenir le plus vieux que j'ai dans mon enfance. Mais après, il suffit de remonter le temps, depuis les massacres, par exemple, de la Hongrie à Budapest, où moi, j'étais servant de messe, et je me rappelle, on avait reçu 4 familles de réfugiés hongrois à Bulle, et comme servant de messe, je m'attendais à voir, comme dans les films, des réfugiés avec des trop pantalons, un peu sales, un peu miséreux, et ils étaient en complet du dimanche, avec une cravate rouge, ils étaient très très beaux, et je me rappelle, j'avais été un peu déçu de cette vision des réfugiés. Et c'est peut-être à partir de là, comme enfant qui dessinait, que j'ai appris à mieux regarder pour savoir qui sont les gens, comment ils sont, à quoi ils ressemblent.
Et avez-vous peint sur la thématique de la Deuxième Guerre mondiale, un peu comme Picasso et son Guernica, par exemple, ou pas du tout ?
Alors, j'ai été beaucoup marqué à l'École des Beaux-Arts par Picasso. Effectivement, la lampe du soleil de Guernica ne s'est jamais éteinte, vu que les charniers, aujourd'hui, allument les guerres du monde. Et pour moi, cette peinture de Guernica est une œuvre emblématique et révolutionnaire. Donc, par là, moi, j'ai suivi aussi ce temps des actualités pour marquer ce temps par certaines peintures.
Êtes-vous plutôt aquarelle, fusain, acrylique, mosaïque ou vitraux ?
Je crois que je suis, comme le disait un de mes amis, le violoniste Nicolas Chouvet, mural. Je suis imprégné des fresques des murs italiens peints au Trecento et au Quattrocento, je suis directement issu de Giotto, de Masaccio. Et puis très très vite, en remontant le temps, on rejoint Picasso par la même famille de pensée sur le plan des volumes. Donc je suis un peintre mural qui dessine plus avec des valeurs, avec des plans. J'aime beaucoup aussi la mine de plomb, le crayon, avec des dessins amples. Et à chaque fois que je peins grand, tous mes sujets, je les dessine d'abord sur des grands poncifs, grandeur nature, à l'échelle 1 sur 1.
Quelle est votre plus grande œuvre ?
Oh, ça, je ne sais pas, peut-être celle qui m'a le plus préoccupé, c'est peut-être cette dernière œuvre, le retable du Père Joseph.
Donc vous n'avez pas encore une œuvre que vous rêvez de réaliser et que vous ne réaliserez peut-être jamais ?
Tant et tant d'œuvres encore à rêver. J'aurai 70 ans l'année prochaine et je commence un peu à compter le temps à l'envers en me disant je vais vivre jusqu'à quand ? Et combien de temps me reste-t-il à vivre pour réaliser toutes les œuvres que j'ai envie de faire ? Et je suis maintenant un peu pris dans cette alternative. Donc, je me prépare à ces temps plus compliqués à composer ma vie vers ces certitudes que tout humain possède en lui et qui va directement vers l'échéance de sa propre mort.
Avez-vous toujours pu vivre de vos œuvres ou avez-vous dû pratiquer une autre profession pour survivre, mais surtout pour faire vivre votre famille ?
Alors la vie d'un peintre, d'un artiste à plein temps, est très compliquée et très difficile. Au premier temps de ma vie professionnelle, j'ai enseigné pendant 4-5 ans. J'ai eu un conflit extrêmement compliqué à l'école secondaire à Bulle avec Marcel Delay, qui finalement m'a fait quitter l'institution officielle vu que je n'avais pas la liberté de pratiquer un enseignement comme je le désirais avec une franchise directe avec les élèves. Donc par là, j'ai préféré quitter cette institution. Et puis ensuite, pendant 4 ans, j'ai travaillé à l'école de Boulaire à la Salette à Breu avec cette célèbre école autogérée où de manière naturel, les pères de la Salette ont fait appel à moi, suite à ma rupture avec l'école secondaire à Bulle, pour enseigner la peinture, le dessin et l'expression dans cette institution. Et c'est là que j'ai eu ma principale rencontre avec le père Joseph Tchoukmel, qui était un des pères de la Salette qui animait cette école.
Donc c'était quand même important pour vous d'enseigner ?
J'ai beaucoup aimé enseigner. D'ailleurs, je poursuis encore l'animation de certains ateliers à Tracé-Carabule avec les enfants ou avec des adultes. J'avais la réputation par rapport à mes collègues professeurs d'être un très bon enseignant. Ils disaient, ils ont regretté mon départ de l'école officielle.
Comment déterminez-vous le prix de vente de vos peintures ? Est-ce une opération facile pour vous ?
C'est toujours compliqué ce rapport de l'argent avec une œuvre. J'estime que je vis dans une société définie comme telle autour de moi en Gruyère et dans le canton de Fribourg. Il y a des repères qui sont des artisans, des menuisiers, des ébénistes qui, eux, tarifent leur travail sur un salaire honorable pour gagner leur pain quotidien à chaque mois. Et la base, plus ou moins, de mes prix correspond à cette dimension-là.
Merci pour ces réponses plutôt courtes mais importantes pour un peu mieux vous cerner. Avant de passer au vif du sujet, nous allons écouter un peu de musique et c'est un morceau que vous avez choisi. Monsieur César, que pouvez-vous nous dire de ce morceau que nos auditeurs vont entendre ?
Alors, je crois qu'ils vont entendre un morceau de Sibelius. C'est un musicien finlandais qui dit et exprime toujours le vent et la nature. Et quand j'étais enfant, mon père nous passait tous les dimanches matins le matin de Sibelius. C'était une des musiques qu'il avait sur un vieux 78 tours. Et par là, cette musique, elle est restée toujours présente en moi, dans ma tête. Ça veut dire que quand j'ai travaillé longuement sur les montagnes, dans le Timon et dans le Grosmont, il m'arrivait à 1800 mètres d'altitude d'entendre, comme ça, au milieu d'un pré, au lever du jour, quand je voyais s'envoler un lacopède, j'entendais souvent des sons qui venaient de la Finlande et de Sibelius.
Énervé.
La voix de la veuvesse.
Je me sens obligée de revenir sur une petite ânerie que nous avons dite durant cette émission. Mais bon, comme vous êtes des auditeurs perspicaces, je pense que vous avez fait une autocorrection simultanée. Alors, Monsieur César n'a pas présenté un morceau de musique de Sibelius, mais bien un morceau de Grieg. Désolé pour les puristes de la musique classique, Monsieur Corzandet a encore du boulot. Et je tiens aussi à préciser que vous pourrez entendre la fin de l'interview de notre cher peintre dans notre prochaine émission. Je vous laisse tout de suite avec Pumpin' Blood de No No No.
Take his coat, he's got the plan. l'astuce du jour. Nom féminin, qui s'utilise pour poser une question. Exemple, astuce du chocolat.
Salut, et oui, Odile est de retour, car c'est le temps des fondues. Et en tant que bonne fribourgeoise, je dirais même plus, en tant que bonne gruyérienne, la fondue au vacherin, ça me connaît. Deux astuces imparables pour réussir au mieux sa fondue. Le mode de brassage du Paco et, pour bien digérer cet amas de fromage divin, l'ajout d'une substance magique. On commence par frotter le caclon avec une gousse d'ail. On y rajoute le fromage, au moins trois vacherins de maturité différente. Il paraît que c'est le gage d'un goût parfait et d'une onctuosité hors du commun. Sentez-moi ça, c'est un vrai délice. Coupez-le en tout petits morceaux et les mettre dans le caclon. Posez celui-ci sur une source de chaleur douce, par exemple sur une bougie de réchaud ou simplement sur une plaque chauffée au minimum. Rajoutez un peu d'eau bouillante sans s'énerver, petit à petit. Une autre astuce imparable lors de la confection de ce plat délicieux, il ne faut jamais s'énerver. J'entends certains auditeurs me crier « Hello, combien il faut en mettre ?» J'allais y venir, patience. Pour la quantité d'eau bouillante, eh bien, seul le pif sera vous l'indiquer. Il faut y aller simplement doucement. Et maintenant, il faut remuer, remuer et remuer encore avec une spatule en bois. Et surtout, il faut dessiner un 8 dans l'écume du fromage. Et toujours de la même façon. Ça commence à ressembler à quelque chose tout ça. Ça me donne faim. À tout instant, on doit pouvoir tremper son doigt dans le vacherin sans se brûler. La fondue ne doit jamais, je répète, jamais cuire. Donc on mélange à tout petit peu. On observe et tout d'un coup, la fondue est prête. Et là, il s'agit d'être rapide comme un armaï. Saisissez-vous du caclon, jetez-le sur le réchaud, arrêtez tout et mangez avec délectation. Accompagné de pain frais ou de patates en robe des champs. Voilà, c'était ma fondue, elle est prête et très bonne au passage. Je vais vous laisser, c'était l'astuce du jour. À bientôt et bonne fondue à tous. Ah mince, j'oubliais le principal. Astuce numéro 2, pour une nuit harmonieuse, rajoutez une pointe de bicarbonate de soude juste avant de servir. Bon appétit.
Grenoble, je m'appelle Sofiane, j'ai 20 ans. Kevin, c'est mon pote, on est inséparables. J'ai un job, moi je vis simplement. Le soir à Villeneuve, les grands frères et les gosses, les terrains de foot et la boxe. Qui a eu tort, la raison du plus fort? Pour un regard en croix, je suis mort.
Toi, mon frère, dis-moi tout. La vie continue sans moi. Dis-moi pourquoi j'étais là. Un jour au mauvais endroit, les cafés, les cinémas, je n'y retournerai pas. Ma vie s'est arrêtée là. Un jour au mauvais endroit.
Énervé, la radio qui me tape sur le système.
Chers amis, c'est déjà la fin de notre première émission. Merci à Julien, notre technicien du jour. Et n'oublions pas Eva, Odile, Laurent, Julien et moi-même qui vous ont bercé tout au long de cette émission. Vous pouvez nous écouter et nous réécouter en tout temps sur notre site www.covevez.ch/énervé ou sur le site www.radiobus.ch ainsi que sur l'application radiobus.fm en cherchant Énervé dans la rubrique blog. Et surtout, n'oubliez pas de liker notre page Facebook. Dans la prochaine émission, vous découvrirez de nouveaux dadas en tout genre, des expressions suisse-allemandes toujours aussi imprononçables, mais avant tout, vous aurez l'immense honneur d'entendre une élève du CO qui consacre l'essentiel de sa vie au sport. Vous pourrez aussi entendre la fin de l'interview de Monsieur César, qui sera essentiellement axée sur le retable. Je ne vous en dis pas plus car on vous attend tous sur les ondes de la radio énervée. Tout de suite, vous entendrez Siren's Call de Cut Some Trees. À bientôt les petits loups! Et merci d'avoir été là pour cette première émission d'anthologie.
Énervé, la radio ouragan.
Comme un ouragan qui est passé sur...
Ah non, ça suffit, là, s'il vous plaît, quoi.
Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see clear into you. The same face every day, the sirens call.